Essai de Christian Dominici, c'est un génie.
Essai.
Pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but.
Et troisième
et
but
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Chute de Mélenchon, juste devant Armstrong, Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Shepard est parti. L'Express, le TGV est parti, Shepard. 958, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.
Eh bien, bien le bonjour, vous êtes bien au Café des Sports aujourd'hui, en ce mardi 20 septembre. Bonjour Gonzalo.
Ça va, ça va.
Bonjour Damienski.
Hi.
Bonjour au petit Edgar et au heureux et inquiet parent. Voilà, c'était un petit message Café des Sports. Vous allez retrouver comme toutes les semaines de la bonne musique, de la bonne humeur, des tacles assassins par derrière. Le tout pour parler bien évidemment du sport local, de rugby. On reviendra sur la dernière semaine de l'Eurobasket. Avec un Gonzalo qui doit être content, partagé. Une moitié content et moitié triste.
Quand tu veux parler de tacle. Parler de tacle, on va peut-être parler de la matinale qui supporte le SPO Rouen.
Ça, c'est parce qu'ils sont obligés maintenant avec le HDR.
Ça a été dit ce matin.
Pas supporté, hein.
Et puis, on parlera aussi, avec Imanolette qu'on avait reçue il y a presque 6 mois, de Nouvelle-Zélande, elle qui revient d'un pays riple là-bas. On essaiera de mieux parler de cette culture, de ces gens, de ce pays et de ce que représente le rugby, à l'autre bout du Pacifique. Gonzalo, musique, c'est quoi pour commencer?
Blue Sky.
Let's go.
Small.
Alors, c'était quoi? Redis-nous ça, Gonzalo, s'il te plaît.
Blue Sky, c'est bien, c'est sympa.
C'est bien, ça lance bien le truc, ouais, je trouve. Bah, vous êtes toujours au Café des Sports, bien entendu. 102.4 FM partout autour du monde d'Evreux. Et puis sinon, bah, c'est sur principactif.net. Le chat, etc., etc. Damienski, t'as vu du sport ce week-end?
Ouais, une deuxième mi-temps footballistique et j'ai lu le coin-coin pour me tenir un peu au jus du rugby, mais je n'ai pas vu grand-chose, à vrai dire.
Bon, moi, j'ai fait pas mal de sport. Dimanche, ça a été actif. Entre le canapé et le jardinage, j'ai failli me claquer un ischio, d'ailleurs, à retourner ma terre. Voilà. Mais je sais pas ce qu'il a fait, le père Gonzalo. Je suppose qu'en bon espingouin qu'il est, il a dû se réjouir de l'insolente réussite.
J'ai vu bien sûr cette deuxième mi-temps.
De Navarro. Pas le commissaire.
On n'est pas bien?
Si.
Paisible. À la fraîche.
This is bad country.
Décontracté du gland.
L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
Voilà qui est dit. Samedi, un peu avant 20h, je grille une clope et mes poumons devant le centre Omnisport. Et puis là, je me demande, depuis combien de temps me suis-je pas approché de cette vénérable enceinte? Même la musique l'a désertée pour préférer le chaleureux club. Ouais, quand avais-je assisté à une rencontre de basket? L'ère Pascal Thibault, ça doit être ça. Vous vous rappelez? Il y avait eu Bercy, puis l'ennui. Des saisons à pleurer. D'ailleurs, je crois que j'ai craqué autour de 2006 ou 2007, je me souviens plus vraiment, assis à côté de Garmuche et de Bode, le président. Une bouillie de match, 2-3 minutes à un moment sans marquer, et ça a été plusieurs fois. Un truc vilain, et je suis parti à la mi-temps, et je suis toujours pas revenu de ma pause cancérigène. Pourtant, cette salle, croyez-moi les amis, j'en connais tous les recoins. Gamin, le samedi, proposait deux options. Il y avait Starkey Hutch ou Jean Fourré pour un match de M. Pas le choix, mon grand frère jouait dans l'équipe. Fatalement, il était mon héros. Ouais, c'est vrai. Malgré une mécanique de tir finalement peu académique. Alors parfois je partais avec lui, alors c'était vestiaire, bande touche, les requins qui me vannaient gentiment. C'était chouette ma petite Lucette. Retour avec les parents, analyse objective du match sur le trajet. Faut se dépêcher parce qu'il y a Drucker. Hein. Ma mère, invectivant adversaire, arbitre et même partenaire. Si Evreux avait perdu, c'était bien de la faute de quelqu'un. Mon père lui a toujours aimé le sport, au plus fort la bourriche, point final. Et je tiens sans doute de lui ma formidable objectivité. N'est-ce pas Brandon?
J'adore.
Sans égal.
Je m'égare, Edgar. Samedi dernier, j'en termine avec mon cancer portatif et fumant. La salle n'a finalement pas changé. 125 spectateurs tenaient à peu près comme l'ALM de mon enfance. La réserve débute son championnat national 3. Une rencontre plutôt plaisante, engagée. D'ailleurs, dès la troisième action, je parviens à saisir, hein, malgré mes maigres connaissances de basket, qu'Evreux possède un joueur au-dessus de la mêlée, si je puis m'exprimer ainsi pour du basket, le multipass Konaté. Et vous savez comment c'est, parfois, on s'échappe du match. Et là, je rêvasse. Et je me demande qu'auraient fait ces joueurs sur le parquet une trentaine d'années plus tôt. Alors en sport, comme en toute chose, il y a les tenants du « c'était mieux avant » et les progressistes. Alors j'observe une dichotomie. Le physique d'un côté, la technique de l'autre. Bon, incontestablement, ça va plus vite et plus haut en 2011 qu'en 1980. Destin de l'évolution de l'humanité. Techniquement,
un peu de rillette pour la vie, Gonzalo.
Le point demeure difficile à trancher. Alors je m'attarde sur le meneur, le peu épais Le Prince. Belle agressivité défensive, gaucher, ça j'aime bien. Il monte la balle avec la main droite, c'est plutôt propre. Sa mécanique de tir me paraît un peu raide. Mais il a l'œil, l'animal, il a l'œil, il regarde avant tout le copain. Il a même un moment repositionné Konaté, ce qui m'a fait un peu marrer parce que sur un passage en boîte. Et le futur pro semblait un peu étonné que le frêle Le Prince lui dise où se positionner. Mais voilà, ça m'a bien plu. Un peu comme l'ensemble de l'équipe de Monsieur Lefrançois. Sinon, il y a un truc qui m'a mis en rogne. D'ailleurs, je le dis à Monsieur Lefrançois. Il va falloir que vous causiez à vos joueurs. Parce qu'à chaque coup de sifflet subi, la majorité de vos gars se transforme en fouteux. Et ils partent dans des négociations. Et ça, c'est au mieux. Parce qu'au pire, ils râlent, ils jurent comme des fouteux, je vous disais. Et ça, c'est chiant. Sinon, cette équipe, elle mérite qu'on aille la supporter. Comme cette moitié de spectateurs qui, finalement, venaient de Netreville. Puisqu'il n'y avait pas un seul licencié de la LM, puisqu'il y a eu un petit problème en début de match. Il fallait un responsable licencié. Il n'y en avait pas. On a appelé Madame Elsa, qui, je crois, avait mieux à faire ce samedi soir. Mais promis, le Café des Sports montrera aussi à Jean Barre dans ce haut quartier de peine à Netreville. C'est promis.
Promis, promis. On ira.
Handball, deuxième division, deuxième journée. Ouais, pour l'instant, ça va. Aix-en-Provence 29, Saint-Marcel-Vernon 24. Finalement, ça fait un partout, hein, un succès à la maison. Un défaite à l'extérieur. CFA, on va vite passer. Luçon 2, Passy 0. J'ai quand même regardé le classement. Les Passy 1 sont 10e après 6 journées. Ce qui n'est finalement pas extraordinaire hein, pour un rétrogradé de national. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Pas extraordinaire.
Basket, honneur aux dames, National 3 féminine, le NBB, c'est pas joli ça par contre comme, comme
ça fait marque allemande de vélocipède en 1942.
Ou fédération.
Comme acronyme, ce n'est pas terrible. Il aurait fallu trouver un truc plus joli. Moi j'aime beaucoup en termes d'acronyme le nom du club de Beauvais en volley. Ça s'appelle le Bouc. Je trouve ça assez drôle. Voilà, c'était une petite aparté.
Donc, c'est un hommage à l'odeur qui règne dans la stag les jours de match.
J'ai rien dit du tout. Je vais pas dire ça sur Jean Barre. J'ai envie d'avoir des pneus encore pour quelques mois. ENBB donc 58. Calais, c'était donc la réserve de Calais, cette équipe professionnelle. Et hop, là, une victoire pour les joueuses de Damien Lanoé, qui d'ailleurs, je l'ai rencontré samedi soir, et il m'a dit qu'il avait bien aimé, malgré une timidité apparente. Il avait beaucoup aimé l'exercice du Café des Sports. Et il a souhaité y revenir si le patron l'y invitait.
58 combien du coup ?
53. Alors d'accord. Qu'il y avait une douzaine de points d'avance dans le milieu du troisième quart-temps.
Eh ben, on le reconviendra bien volontiers pendant cette saison.
Autre néophyte, les amicalistes, hein, poussés par un superbe Konaté. J'en parlais tout à l'heure dans la précédente chronique. 30 points, 3 contres, et je ne sais pas combien de rebonds. Donc là, la LM signe également un premier succès dans l'étouffade. Non, un succès à l'étouffade, pardon, en National 3. Donc ALM 92, Lisieux 74. Rugby ! Attention, les amis.
Ah, ça devient bon.
Ça commence ce dimanche par la réception de. Quand. Alors, je voulais, d'habitude, on n'annonce pas à ce moment-là du semaine, mais je voulais rappeler quelque chose. Là, mon Ellie, elle a 8 ans. Je crois qu'elle n'a jamais connu, depuis qu'elle est née, un premier match victorieux auprès Margot. C'est dire si la malédiction est grande sur ces entames de championnat. Et par expérience, mes amis, ces matchs conditionnent une bonne partie de la saison. Alors, gaffe.
Il va falloir sortir le casque à pointe. Contre le Stade Canet, tout à fait.
D'ailleurs, on m'a dit quelqu'un que je connais là que a priori le Stade Canet avait changé de valeur. Ils avaient arrêté un peu de jouer derrière et ils s'étaient musclés devant.
Ah ben ils ont changé d'entraîneur. Ils ont récupéré l'entraîneur de la montée en Fédéral 2 d'il y a 4-5 ans, qui est un ancien briviste, fils spirituel de leur enseigne, l'ami Fred Cournary. Et pour lui, le rugby est avant tout un sport de combat collectif.
Et ça commence devant.
Et non pas un sport collectif de combat. Voilà. L'ordre des mots est important et il l'a bien souligné dans une récente interview sur France 3 Télévisions Basse-Normandie.
C'est tout pour moi.
Eh ben, c'était plutôt pas mal. On va enchaîner avec ton petit morceau.
Un clin d'œil à la LM et à Netreville.
Pas à pas, nous regagnons-les. Les hauts quartiers de peine,
les avait-on quittés?
Le plus dur s'achève, tu m'envoies. Désolé, tout en bas, nous nous sommes laissés aller à croiser au quartier, loin de nous, alors.
Cesser d'y penser.
Un faux pas et pas d'autre choix.
déjà de redescendre. Redescendre, c'est compliqué. J'ai pris goût assez au quartier. C'est au lieu sans relief,
ses contours arrêtés.
Quand en bas t'en peine à s'aimer, puis remonte.
Ville de la Madeleine, les hauts quartiers de Penne, Françoise Brott, Dominica.
C'était pour toi, Bernardo. Pour l'aile. C'était les 5 minutes à Bernardo. Je crois que c'est le moment. Vous êtes toujours sur Principe Actif.
Oui, c'est vrai.
Au Café des Sports.
C'est vrai.
Voilà, ce type de musique, vous n'avez pas l'habitude de l'entendre, auditeur, auditrice. D'ailleurs, vous n'êtes pas très actif sur le chat ce jour. Et voilà, à quelques heures du coup d'envoi du match contre les Blacks, on vient d'apprendre la composition de l'équipe de France avec quelques surprises, on va dire, mais on y viendra dans la deuxième partie.
C'est radiophonique ça ou pas?
Ah ouais.
Ouais. On y reviendra un peu après. Déjà, on va faire le bilan de la semaine passée parce qu'il y a eu des surprises d'ores et déjà, et notamment.
On a plus le tapis rugby?
Non, écoute bien, tiens, je vais le mettre un peu plus fort. Passé à l'abordage il y a quelques années, en ligne droite de son Irlande natale, Mundi, avec l'album Live in Confusion. Pourquoi l'Irlande? Et oui, parce que à tout seigneur, tout honneur.
Come on, Brian.
Et voilà, comme on a l'habitude de dire au rugby quand même, no scrum, no win. Comme quoi, quand j'avais annoncé l'évolution de la mêlée australienne, peut-être pas suffisante, passée au martyr par le rouleau compresseur irlandais, et je pense qu'ils ont écopé de bien 8 pénalités en mêlée qui ont donné la gagne et à Sexton et à O'Gara. Un match très fermé, une agressivité, une présence défensive qui perturbe bien la suite de la compétition de la Coupe du Monde de rugby avec ce qui se dessine, un tableau avec l'hémisphère sud, un tableau avec l'hémisphère nord.
Je reviens sur cette mêlée, je pense que Robbie Deans, alors j'ai pas regardé les faits divers, les nouvelles de l'infirmerie, a fait une grosse erreur en titularisant pas Moore au talon, son remplaçant est quand même 3 niveaux en dessous. Voilà. Et ça a un impact, un sur le jeu en mouvement des premières lignes, sur les mauls, etc., les départs au ras, et ça conditionne aussi la tenue de la mêlée australienne. Soit il était blessé, parce que sinon il aurait dû le faire rentrer en cours de route. J'ai pas trop suivi ce qui s'était passé dans cette affaire.
Et puis, dernier joueur à qui je mets un grand coup de chapeau, il est souvent dans l'ombre, c'est Duncha O'Callaghan, le deuxième ligne irlandais, qui passe souvent. Qui est moins populaire que le rouquin O'Connell. Mais qu'est-ce qu'il est casse bip. Je sais pas si c'est radiophonique une fois de plus. Mais quel joueur, quelle présence.
On peut souligner aussi la paire de centres qui est centenaire en sélection.
Ouais.
Darcy Driscoll, ils sont ensemble depuis junior. Hein.
Ouais, voilà.
Ils ont été champions du monde junior.
Champion du monde junior en 98 de mémoire. Ils sont arrivés en équipe d'Irlande en 99. Voilà, 12 ans au plus haut niveau ensemble. Ogara a annoncé que c'était sa dernière compétition internationale. Il y a toute une série de joueurs comme ça qui va progressivement arrêter. Va falloir les remplacer, les bonhommes. Donc bon. Voilà.
France-Canada, 46-19. Que dire ?
Je retiendrai deux choses de ce match. La fébrilité de la première mi-temps et le dernier essai.
Alors, moi j'ai une question à vous poser parce que je voudrais revenir sur deux résultats. Galles-Samoa 17-10,
ouais.
France-Canada 46-19. Je rappelle qu'à la 60e, ouais, pour Canada-France, il y avait à peu près égalité. Hein,
oui, oui. Ouais, ouais.
Alors moi je voudrais savoir si le rugby est un sport équitable.
Non.
Parce que faut bien voir un truc, dans les relations Nord-Sud, les grandes nations avaient 7 à 8 jours
de repos. Ouais.
De repos. Canada 3, 4. Samoa 4 ou 3.
Ouais, non,
et
mais...
quand on voit que ces deux équipes qui craquent en bout de match.
Dans les 60, à la 60e.
Voilà, je demande si c'est encore pas une. On a du mal, enfin, la Fédération internationale a du mal à développer ce sport mondialement. Il ne l'est pas encore, ce n'est pas encore
et
un sport.
Il y sera jamais, ils veulent pas.
Certes, point. Mais alors là, tu flingues.
Ah, c'est hallucinant.
Tu flingues carrément les Samoa qui avaient une belle carte à jouer. Sera si. Plus... Avec le même nombre de jours de repos,
mais
ça se joue. Hein, ce
on
ne
va pas poser les mêmes questions pendant 50 ans. On va pas...
C'est pour équitable ou non ?
Non, de toute façon, on aurait voulu développer le rugby dès le début. Il y a 8 ans, quand la Coupe du Monde a été attribuée, on ne l'aurait pas mis en Nouvelle-Zélande, on l'aurait mis au Japon. Voilà, c'est encore un pays britannique et anglo-saxon qui trinque ou qui récupère la coupole. Et voilà, c'est, et ça restera toujours leur jargon à eux, leur petit plaisir personnel. Ali Herbe, voilà. Je peux pas en dire plus parce que de toute façon, c'est toujours pareil. On peut parler des sanctions envers des joueurs qui mettent des coups, qui prennent 15 jours, alors que ça serait un Français, il prendrait 6 mois. Et on a eu l'exemple encore pendant la Coupe du Monde, là, avec l'Anglais.
Loves.
Voilà, Loves qui met un coup de genou.
Venu d'ailleurs.
Voilà, les Desma, il prend 15 jours. Super. Ça, pour des joueurs français, pour des fourchettes présumées, ils ont pris un an.
Ouais, 9 mois ou
ouais, non, ouais, ouais. Dupuis, il a pris combien ?
9 mois et l'autre 12
et voilà.
À Toub.
Et à Toub, voilà, donc voilà, politique à deux vitesses. Alors sur ce coup-là, les Français s'en sortent bien contre les Canadiens parce qu'on est un pays émergent, mais c'est l'éternelle histoire qui recommence. Moi, je retiendrai quand même, je le redis, ce dernier essai qui m'a fait un peu vibrer parce qu'on est revenu 20 ans en arrière où on joue un ballon. Depuis nos 20 mètres sur la réception, et puis on arrive à traverser le terrain pour aller marquer un essai improbable à la dernière minute par Claire suite à une percée de Mermoz avec un relais de Harry Nordoki. Voilà, où c'est le rugby qu'on a envie de voir, mais c'est vrai que qu'est-ce que ça vaut contre les Canadiens à la 80e minute? On n'en sait rien. Et c'est pas avec ce sur quoi on va enchaîner qu'on va être rassuré.
Ouais, parce que tu évoquais ce dernier essai, mais avant tu évoquais deux choses. Et la première mi-temps. Première mi-temps, donc infructueuse.
Ou on peut pas. Ou voilà, on peut parler de cette mi-temps, mais je vois pas quoi dire. Il flotte à 10 milliards. 10 milliards. Le terrain, il est. Tu peux pas jouer au rugby, donc ça nivelle. Et les Canadiens, c'est des guerriers. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ça a été du jeu à une passe
Serge
et à la chandelle.
Serge Blanco avait une analyse. Il expliquait quand même que ça manquait un peu de trogne, un peu d'intelligence. C'est-à-dire que c'est pas la peine de jouer tous tes ballons à la main, effectivement, quand il y a un temps comme ça. En première mi-temps, il disait qu'il fallait mettre un grand coup de latte chez l'adversaire.
Loin devant.
Et jouer chez eux en les pressant, en attendant la faute ou en essayant de récupérer un turnover. Pour aller de l'avant, quoi.
Et je crois que la... Bon, allez, on va clore là-dessus. Deuxième partie, bon, on va attaquer avec Monsieur Marc.
Notre ami, ton ami BE2.
Je sais pas s'il est BE2 en plus. Bon, ouais, si, il doit y être. Allez, quand même, j'espère pour lui. Allez, on l'écoute. C'est extrait de la conférence de presse de cette nuit.
Presque. Alors, c'est presque ça.
Bah ouais, mais désolé.
Ah, c'est la pub, là.
Ouais.
Mais... Non, bah laisse tourner la pub. Donc on va dire que quand même il y a eu un grand retentissement, c'est-à-dire que ils sortent Trinduc du 10 pour mettre Para qui est donc un 9. Entre-temps donc Skrela s'est pété.
C'est un groupe de 30 joueurs. Le seul demi d'ouverture qui joue c'est François Trinduc. Il a été moins bien, mais je crois que c'est pas lui faire affront de dire qu'il a été moins bon ces deux premiers matchs. À ce poste-là encore une fois on a besoin plus qu'ailleurs de régularité. Je ne condamne pas François Trinduc, à qui, comme tu le dis, pendant 3 ans et demi, j'ai fait confiance. Voilà, J'en ai parlé après le match contre le Japon, j'en reparle là, et il y a un moment, ben, j'agis. J'attends aussi de François, justement, qu'il nous montre que c'est un compétiteur et qu'il vaut mieux que ce qu'il a montré sur ces deux matchs. Je le juge quand même comme un intérim, encore une fois. Hein. C'est, ce que je veux, c'est d'une part... l'habitude, est-ce que comment François Trinduc peut prendre cette décision? J'attends de voir ça aussi. Donc à lui de se remobiliser, à lui de, je pense qu'il rentrera en cours de match et nous montrer que c'est un compétiteur, que c'est un champion. Et puis on verra pour la suite. Je suis déçu de ses deux prestations, je lui ai dit. Mais encore une fois, il a aussi le droit de rater son match, comme j'ai le droit aussi de prendre ce type de décision pour faire en sorte qu'il se remobilise. Donc j'attends ça aussi de lui. A priori, il n'y a pas de problème annexe en tout cas. Voilà, il ne s'explique pas lui-même comment voilà, il a pu passer à côté de ces deux matchs, même si des fois il a du mal aussi, à mon sens, à assumer ses contre-performances. Donc c'est, ça aussi pour moi, c'est quand même la marque d'un champion, de se dire, voilà, même s'il sait que ses performances n'ont pas été assez abouties, je pense qu'il y a aussi... cette décision doit contribuer vraiment à ce qu'il se remette en question.
Bah la continuité du grand n'importe quoi. Tu évoquais tout à l'heure O'Gara, tu as évoqué il y a quelques semaines Toby Flood, on avait évoqué aussi Genia Cooper en Australie, ou avant Carter. C'est-à-dire que il y a des entraîneurs qui font des choix sur la durée. Et là, on galvaude d'entrée de jeu le match contre la Nouvelle-Zélande en faisant jouer un joueur qui est pas à son poste de toute l'année, de toute sa vie.
Il a joué des bouts de match encore cette saison à l'ouverture avec Clermont.
Des bouts de match.
Ouais, il a joué encore il y a deux ans avec.
Des bouts de match.
Avec Bourgoin, il a joué longtemps à ce
poste-là.
Il
a joué des bouts de match et voilà. On se présente en short, enfin même en culotte courte. Face à la Nouvelle-Zélande. Alors je sais bien qu'il faut pas le gagner.
Mais oui, mais
faut pas être ridicule.
Mais t'en as quoi à faire d'être ridicule? T'as Masque est pété, qui peut pas jouer.
On le remplace pas.
Pour l'instant, tu veux le remplacer par qui? De toute façon, il pourrait pas jouer vendredi. Donc
on le remplace pas. Doussin, on a tardé à le faire venir. L'entraîneur a pas exigé qu'il arrive tout de suite. Neuf encore, je précise.
Le problème, c'est ça, c'est surtout pas avoir 2-10 depuis la blessure de Skrela. Le vrai souci, il est là. Mais je redirais, alors c'est pas lui qui était le coach à l'époque, mais on nous a sorti il y a la Coupe du Monde il y a 4 ans un 10 du chapeau pour le match contre les Blacks, qui était en l'occurrence Boxis, qui avait pas joué quasiment avec l'équipe de France avant. Et puis bing, il fait ce match, il fait gagner la France. Moi, de ce que j'ai vu avec Para à l'ouverture, limite, il m'a plus séduit que Trinduc sur les deux matchs de Coupe du Monde. Sur ces deux matchs-là, après, c'est où Trinduc, il a quand même joué depuis 4 ans avec...
Sur 4 ans, on n'a rien préparé une fois de plus. Voilà, 4 ans qui n'ont servi à pas grand-chose.
Bah si, t'as quand même fait émerger plus ou moins un mec, même si la régularité n'est pas au niveau. On vient de parler d'O'Gara, effectivement, il était épaulé par un mec quand il a commencé à jouer qui s'appelait Humphreys. Là, O'Gara...
Bon, c'était chapeau hein, quand même. Hein.
Ouais, là...
C'était les mêmes.
Ouais, mais sauf que voilà, ils étaient en alternance. Quand il y en a un qui faisait pas un bon match, c'était l'autre qui jouait le match après. Là, ils tournent avec Sexton. Un coup, c'est Sexton le titulaire, un coup, les remplaçants. Ils tournent tous les deux.
On tourne pas, nous.
Ben non, parce que t'as personne.
Une très belle interview, je vous invite à aller sur le site de Libération. Libération qui avait dépêché, je l'ai déjà dit, pour l'Euro, un très bon journaliste qui devait s'appeler Willy Ledevin, qui écrivait très très bien, enfin qui écrit très très bien, il est pas mort le pauvre. Et puis sur la Nouvelle-Zélande, il y a un journaliste et un écrivain qui se relaient, et il y en a un qui s'est chargé d'aller interviewer, je crois que c'est l'écrivain, je dis l'écrivain parce que c'est sa profession d'écrire, qui a interviewé Tony Marsh, le centre néo-zélandais qui jouait à Clermont
et en équipe de France.
Et il dit, les problèmes de son compagnon Rougerie au centre sont les mêmes que ce qu'il avait à l'aile. Il défend pas bien au centre, et j'en suis malheureux pour l'équipe de France.
Alors, deux, trois petites choses pour clore cette page.
Tu peux rebondir là-dessus hein.
Non, je veux pas rebondir là-dessus, parce que j'ai d'autres choses à dire plus importantes.
Notre chef.
Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a quand même des choix qui sont faits. Barcella est sur le banc, c'est Poux, le Toulousain, qui débute. Je trouve que c'est dans la logique. Et autre gros choix, c'est la non-titularisation de Harry Nordoki à la place de Bonner. Picamol qui m'a fort séduit, certes, contre les Canadiens, mais plus que la Cafia contre, le même, contre les Japonais.
Pas d'accord. Non, il porte trop. Ah. Il gaufre deux essais en portant trop.
Il porte un peu trop, mais je trouve qu'il apporte quand même plus de volume que la Cafia. Et comment dire, et donc avec du sautoir au centre après la paire de centres, parce que ça a quand même longtemps tourné. Mermoz associé à Rougerie, à une aile Médard, à l'autre aile Claire et à l'arrière
Trail.
Voilà, espérons qu'il se ressaisisse, notamment sur les ballons hauts. Il a quand même goinfré le premier essai.
Juste une question.
Oui.
On fait comme France-Espagne de basket, on s'en fout, on perd, etc. Ça,
c'est ce qu'il faudrait.
J'allais demander, ouais.
Bah, c'est ce qu'il faudrait. T'évites les nations du Sud. Il y a deux tableaux qui se décident. Un avec les Blacks, l'Afrique du Sud, l'Australie et l'Argentine. Un autre avec les Anglais, le Pays de Galles, l'Irlande et la France. Trination contre tournoi destination. Voilà, donc il y aurait vraisemblablement une finale, à moins de surprise, une finale hémisphère nord, hémisphère sud.
Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que de toute façon on serait pris une pile. Mais bon, ça c'est juste un avis perso.
Allez, affaire à suivre. Après la mi-temps, petit morceau et on se retrouve.
Il y avait eu top 14, mais on verra ça plus tard.
La
saison est longue.
La saison est longue. Brive et Montpellier toujours à l'agonie.
Et voilà. Clermont avec une très belle équipe composée de jeunes. Et ça
voilà.
Tourne.
Et voilà. Et on se retrouve après rapidement pour aller en Nouvelle-Zélande. Allez, musique.
Than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. And if it looks to me like you your reflection, plan to add your own fight to this dimension, then tell it that this ain't no free for all to see. There's only three, it's just you and me against me. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one?
Alors, Iman Olette, toi qui reviens de Nouvelle-Zélande à quelques jours de ce huitième de finale, on va dire, entre la France et les Blacks, c'est comment la Nouvelle-Zélande ?
Donc, bonjour à tous, déjà. Donc oui, voilà, je suis revenue de Nouvelle-Zélande il y a deux semaines.
Les Néo-Zélandais, ça donne quoi au niveau du rugby par rapport à la présence dans la ville ? C'est... un peu comme en France, il n'y a rien du tout, il y a une affiche, il y a deux affiches, et quoi, c'est présent dans les médias, dans la vie quotidienne ou pas?
Donc ouais, c'est vraiment le sport national. Par exemple, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le quotidien sportif, ou par exemple les quotidiens sportifs, Ça commence toujours par le rugby, il y a 10 pages de rugby, il y a peut-être une demi-page de foot.
Ah bah comme chez nous avec l'équipe quoi, c'est exactement pareil.
C'est ça, sauf que c'est inversé. Et donc il y a beaucoup, par exemple à la télé, beaucoup d'émissions et surtout à l'approche de la Coupe du Monde, beaucoup de publicité qui était basée sur les Blacks. Il y a plusieurs chaînes qui sont spécialisées dans le rugby. Donc on voit que les Blacks c'est vraiment l'emblème national. On voit des fougères partout, le drapeau c'est vraiment dans, sur toutes les voitures, il y a des autocollants, des drapeaux, c'est vraiment une fierté énorme, il n'y a pas un seul bar qui ne diffuse pas les matchs de rugby, que ce soit les matchs des Blacks ou même les matchs locaux de l'ITM Cup, donc c'est, l'équipe, enfin, c'est un mélange pro des deux top 14 on va dire, c'est le championnat de Nouvelle-Zélande après le Super 15.
La relation entre les Anglais ou les colons anglais et les Maoris, est-ce qu'il y a une vraie relation entre eux? Est-ce que les deux populations vivent ensemble ou est-ce qu'elles vivent mélangées encore?
Donc surtout dans les grandes villes, c'est mélangé. C'est vraiment, je prends l'exemple d'Auckland parce que c'est la capitale culturelle du pays avec presque la moitié des habitants de Nouvelle-Zélande qui habitent là-bas.
Alors, attends, je te coupe. Capitale culturelle, ça veut dire que c'est pas la capitale?
Non, c'est Wellington la capitale, mais Auckland, il y a 1,5 million d'habitants, alors qu'il y a 4 millions d'habitants sur toute la Nouvelle-Zélande. Et c'est à Auckland qu'il y a toutes les activités, enfin, vraiment, c'est la capitale culturelle du pays, avec une population maori assez importante. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on, dès qu'on veut s'intéresser à la culture maori, entre guillemets, pour assister à des spectacles ou visiter des villages, il faut payer. C'est vraiment, c'est dommage parce que c'est un vrai gagne-pain. On a l'impression que c'est vraiment du tourisme, quoi. On sent que c'est faux, en fait, quand on visite des choses et c'est vraiment dommage.
T'as rencontré Anna Pouilla, qui est la lanceuse de poids dont on avait parlé, qui était porte-drapeau des Tonga pour les JO de 2008. Elle vit sur Auckland. Comment elle vit, elle, comment elle est intégrée à la société néo-zélandaise?
Donc en fait, tous les habitants des îles habitent plutôt au sud d'Auckland. C'est plutôt les banlieues pauvres, on va dire, où il y a vraiment tous les habitants des îles. Et ça reste une culture très... très typique, on va dire. Ils ont vraiment leur propre identité. J'ai par exemple assisté à un anniversaire où les Tongiens se sont tous assis autour de l'arbre et ont prié. Il y avait le prêtre à l'anniversaire. C'est vraiment, ils sont vraiment très imprégnés dans la religion.
Notamment, tu t'es rendu à Christchurch qui devait accueillir des matchs, qui a essuyé un gros tremblement de terre. Comment est la ville? Comment toi, tu as ressenti le truc là-bas? Et comment est le stade? Parce que les matchs ont été annulés parce que le stade est complètement détruit. Ça en est où?
Christchurch, c'est vraiment un environnement particulier parce que donc il y a eu un tremblement de terre au mois de février, il y a eu plus de 100 morts et il y a une grosse réplique au mois de juin. Et en fait, tout le centre-ville, proprement dit, est fermé complètement, donc avec des barrières. On voit que tout est détruit, les clochers des églises sont par terre dans la rue, donc tout est abandonné. Et en fait, les gens... que ce soit les habitants de Christchurch ou même de toute la Nouvelle-Zélande sont très touchés quand ils parlent de ce tremblement de terre parce que c'est une ville assez importante, c'est la plus grosse ville de l'île du Sud et donc en fait vu que la population de Nouvelle-Zélande est très petite, tous les Néo-Zélandais ont un ami ou de la famille qui habite là-bas et ça a été tellement ravagé que les gens sont très touchés par cet événement. Et par rapport au stade, donc le stade est complètement fermé, fermé d'accès. Et donc j'ai pu apercevoir entre les grilles le terrain en lui-même et il est tout vallonné, il y a des trous énormes.
Comme le Pré-Margaux, c'est pareil?
Non, quand même pas, non. Et donc
c'est en meilleur état que le Pré-Margaux, c'est ça?
Non, je dirais pas ça non plus. Et donc en fait, il y a des gens autour qui surveillent que personne ne s'approche trop. Parce qu'on sent que c'est quand même protégé, les habitants de Christchurch et les agents de sécurité veulent pas que les touristes soient trop dans la ville. Parce que,
ça a été quoi leur accueil à l'aéroport de Auckland, c'est ça?
Oui, c'est ça. Donc en fait, j'ai eu la chance le jour où je rentrais en France, donc les Français arrivaient à Auckland. Donc j'ai pu assister à leur arrivée et il y a un espace qui a été spécialement mis en place pour l'arrivée de toutes les équipes. Donc c'est personnalisé suivant les équipes avec les drapeaux, les couleurs, tout ça. Et donc il y a eu un petit spectacle maori pendant une trentaine de minutes avant qu'ils arrivent.
Spectacle payant du coup ?
Non, gratuit ça par contre. C'était par des étudiants, enfin des élèves des écoles voisines. Donc on a eu le droit à des petits hakas, des chants. Et ouais, c'était très sympa. Il y avait environ 200-300 personnes. Il y avait beaucoup de Français. Des gens qui parlaient français. Après, je sais pas, peut-être qu'ils habitaient en Nouvelle-Zélande.
Et il y a une grosse communauté française en Nouvelle-Zélande ou pas ? Il y a beaucoup d'habitants, il y a beaucoup de Français qui habitent là-bas ?
Non, honnêtement, je pense pas. J'ai pas eu l'occasion d'en rencontrer beaucoup. Ou alors, les Français que j'ai rencontrés, c'était vraiment des touristes.
Alors, justement, en tant que bon Français, bah, c'est la question. Comment on mange là-bas ? Parce que ça, c'est un truc important quand même. Pour
alors...
nous.
Comment on mange ? Donc,
avec des fourchettes ou avec les doigts, merci.
Je suis pas très bien placée pour en parler parce que pendant 3 semaines j'ai vécu entre ma voiture et des auberges de jeunesse, donc j'ai pas trop pu voir vraiment. Après j'ai été dans une famille où là j'ai plus constaté le mode de vie là-bas, donc c'est un peu à l'anglaise quoi.
Faut pas y aller pour manger.
Le midi on mange ce qu'on trouve et par contre le soir il y avait quand même un vrai repas. C'était vers 18h quoi. Mais bon, ça restait.
Et l'apéro dans tout ça, on en fait quoi ?
Pas d'apéro, un verre de vin le week-end.
Et le vin comment ?
Le vin, donc j'avais entendu que ça faisait vraiment partie de la culture là-bas, mais en tout cas là où j'étais, c'était pas vraiment flagrant.
Bon, Emmanuelette, dernière question. Ça n'a pas été très glorieux contre le Canada, on va dire que ça a été plutôt long et laborieux. Ça va donner quoi la semaine prochaine contre les Blacks ?
Moi, j'y crois. Je pense que la Nouvelle-Zélande va quand même gagner, mais ça va pas être une tôle mémorable. Je pense que ça va jouer à une dizaine de points d'écart. Mais je pense quand même que les Blacks vont battre les Français.
Donc, victoire des Blacks et pas de bonus défensif pour les Français.
C'est ça.
Bonus offensif pour les Blacks ?
Oui.
En plus.
La tactique, elle est simple. Hein. On va leur rentrer dans le chou à ces merdeux. Ils nous ont traités de gonzesses, on va leur faire voir si on a des petites bites. Alors Berthier, Morillo et Spivak, je veux que vous me les défonciez.
Oh Spivak, c'est ce qu'il a dit numéro 10 ? Les Polacs, ils leur chiaient sur la gueule.
Bon alors celui-là, il touche plus un ballon. Hein. À la première occasion, tu lui prends la canne.
Ces types vous méprisent. Alors vous avez 45 minutes pour régler vos comptes.
Souvenez-vous, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles.
On ne gagne pas avec sa technique. On gagne avec ça.
C'est peut-être ce qu'il a manqué, l'équipe de France de basket. Un peu de haine.
Peut-être. Face à quelques agressions, on dira. Basket, on va... Allez, dernier quart d'heure du Café des Sports, version hebdomadaire. On vous rappelle que vendredi 30, vous nous retrouverez de 18h30 à 20h au complet avec Raoul, avec Bernardo, avec Damienski, Gonzalo.
Quelques spectateurs aussi.
Ah, quelques spectateurs en coulisses. Dans la coursive.
J'ai cru comprendre que Yoman, le Couvésien, serait là.
Ah, le Couvésien sera là comme d'habitude. Ça sera pour la tournée du patron, le Café des Sports. N'hésitez pas à poser vos questions à nos spécialistes, à nos acolytes, comme on dirait, dit dans le jargon, sur le répondeur de la matinale, le Damienski, aide-moi pour le numéro s'il te plaît.
02 32 62 57 32 02 32 62 57 32.
Allez, pour ce dernier quart d'heure, on va clore l'actualité basket de la semaine passée. On va revenir brièvement sur la demi-finale, peut-être contre les Russes d'abord. Damienski,
pas vu.
Prenante.
Sur la route, ouais.
Prenante parce que il y a eu match, une équipe de Russie dirigée par David Blatt qui était un grand entraîneur, avec une équipe composée de building quand même, hein, c'était très 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 grand, menée par Timothée Mozgov qui fait 2-17 quand même, et puis ça jouait, superbe jeu, j'allais dire léché, Non, c'était chouette. Donc ça jouait des deux côtés. Ça changeait du quart contre la Grèce, où la Grèce a un jeu très fermé et c'est dans leur culture de faire déjouer l'adversaire. Eux, les Russes basent une partie de leur basket sur l'attaque, avec un Kirilenko qui évolue comme une sorte de joker, c'est-à-dire qu'il fait un peu ce qu'il veut sur le terrain. Enfin, il intervient un peu partout, point, rebond, passe. Il peut faire des très grands matchs en mettant 8 points, mais en faisant plein de choses à côté. Deux joueurs de devoir, Monia Kriapa, talentueux, et puis un ensemble qui tourne bien. Et la France a répondu déjà dans le combat, puisqu'on a évoqué le rugby, dans le combat, mais aussi avec la tête, avec un jeu en mouvement qui était plutôt pas mal. Parker a lâché plutôt le ballon. On notera le superbe match de Batum, 19 points à 100%, que ce soit 3 points, 2 points ou lancer franc.
Et la performance, alors on est passé directement sur la demi-finale, mais la performance de Nando De Colo contre les Grecs, on l'avait. Il y avait eu un petit débat.
Loterie, joueur loterie, ça rentre. Voilà.
Voilà,
c'est pas rentré ni en demi, ni en finale.
Ni en finale, voilà. Mais voilà, sur ce match, on avait avancé.
Il a souffert sur ces deux matchs-là défensivement. C'est quand même pas le joueur le plus rapide de jambes en défense. Et il a bien mangé.
Ah, il nous a sauvé quand même un peu par face
à Grèce. Oui, bien sûr. Joueur loterie, c'est-à-dire que tu te fais rentrer, ça rentre, ça rentre pas, tu sors.
Alors, voilà.
D'ailleurs, on a vu qu'on avait un très gros problème derrière Parker. Steve Albici était un peu juste. Andrew Albici était un peu juste, bien joué. Et puis Chikambu,
Chikambu,
trois tours en dessous. Enfin,
il doit être sympa. Qu'il est sympa ou collé. Il a une fille qui sort avec.
Non, parce que Dio était blessé. S'est blessé quelques jours avant. Il fallait faire un choix.
Allez, on clôt cette page demi-finale, on va attaquer sur la finale. Juste quand même pour dire aux auditeurs, que nous aussi on est ravis d'avoir des voix féminines de temps en temps au Café des Sports. Nous ne sommes pas des machos et nous invitons les clubs hébroïciens et de l'agglomération qui veulent venir participer au Café des Sports à nous contacter via toujours le même répondeur. Vous réécoutez le numéro, sinon c'est le 02
32 62 57 32.
Allez, maintenant on va parler de la finale. Choc annoncé par tous nos acolytes la semaine dernière, à savoir le tenant du titre, l'Espagne, contre les Français. Alors déjà avec une satisfaction, celle d'être qualifié aux Jeux Olympiques, après un championnat marathon avec, on le rappelle, 24 équipes.
Le plus gros championnat d'Europe de l'histoire.
Voilà, combien de matchs en combien de jours? 11 matchs en 19 jours, un truc comme ça. Voilà, donc une densité peut-être des raisons d'espérer, peut-être pour une médaille, pourquoi pas, mondiale.
Alors, on peut supposer que l'équipe de France fait partie des 3-4 meilleures équipes du monde, puisqu'il y a dedans les États-Unis, fatalement, l'Espagne, et puis après, peut-être soit l'Australie ou l'Argentine, selon les années. Et puis, donc, il y a la France, qui, quand même, qui pour la première fois de son histoire, accède en finale.
Bon, c'est pas rien déjà.
C'est pas rien. Il y avait juste une demi-finale, si je me souviens bien, dans les années 50, avec Papa Beugnot, Papa Monclar, enfin des choses comme ça. C'est pas mal. Un travail a été fait. Ils ont, comme dit Monclar, les stars de NBA sont foutus le cul par terre, ce qui n'était pas évident il y a 4-5 ans. Il y a eu un coach qui a su faire passer ses idées, qui a sorti des joueurs au moment où il le fallait. Charles Cahudi, passé par Évreux, qui a fait des belles choses. Il a sorti de son chapeau Kevin Serafin aussi. Il y a eu des belles choses. Il y a une équipe en devenir. Je crois que les gars ont encore faim. Ils ont faim pour les JO. Les JO, d'ailleurs, la France a été battue deux fois par l'Espagne. Il y a des raisons d'espérer sur les JO pour deux choses. Il y a Turiaf qui était blessé, qui pourrait revenir garnir un peu la raquette et s'opposer aux frères Gasol qui nous ont fait très mal. Et puis, il y a Rodrigue Beaubois qui pourrait être une bonne solution pour défendre sur... Non, puis une belle solution pour défendre sur Navarro. Navarro, meilleur joueur de ce championnat d'Europe, qui a tourné à environ 30 points de moyenne sur quart, demi et finale.
Je crois que sur quart demi, ça doit être ça, quart demi, il était à 77 points, un point par minute joué. Un truc comme ça, il y avait une statistique. Ou non, c'est peut-être avec la finale.
Et donc, c'est avec, en plus de la finale. Faut rajouter les 29 de finale.
D'accord.
L'Espagne, la plus belle équipe, on rappelle, c'est une génération qui a été championne d'Europe, championne du monde junior. Ils sont suivis, une génération qui, un peu comme dans le football, qui a d'ailleurs insufflé cet esprit-là au football espagnol. C'est-à-dire, il n'y a pas de barcelonistes, il n'y a pas de gens de Madrid, madrilènes. On défend le maillot espagnol.
Et Et on en avait parlé la semaine passée, le joueur passé par le centre de formation excentré d'Evreux, celui de Prissé.
Ouais.
Chikamba.
Non, Serge Ibaka.
Serge Ibaka, voilà.
En fait, qui est resté quelques semaines. Hein, oui. Après, il est vite parti en Espagne.
Mais voilà, c'est machine de guerre à l'intérieur pour compléter les frères Gasol qui sont plutôt des très bons joueurs de basket.
Et vous imaginez.
Lui, c'est un athlète hors pair. Il a claqué.
Mais là-bas, il joue pas.
Vous imaginez
7 ou 8 contre en.
Les sacs de croquettes que la maman devait acheter pour les trois frères. Hein, parce qu'il y en a un qui fait 2'15. L'autre, il est à 1 cm plus bas, Marc Gasol. Et il y a un troisième loustique. Hein. Alors, il paraît qu'il est tout petit, fait que 2m 07 à 15 ans. Mais vous imaginez les sacs de croquettes hein, qu'il faut acheter.
Non, mais logique respectée. En face de nous, la meilleure équipe, la plus habituée à jouer ensemble. Comme évoqué très justement, l'envie du maillot national. Et puis, c'était flagrant, un jeu collectif, comme on vient de le dire à l'instant, que je viens de le répéter, qui était opposé à celui, je trouve, de l'équipe de France qui était vraiment plus, comme d'ailleurs c'était dit un peu dans les journaux par entraîneur interposé, le coach espagnol qui disait que c'était plus du 1-1 en face. Enfin non, c'était l'entraîneur grec peut-être en quart. C'est vrai que bon, on cherche quand même beaucoup plus.
C'est un peu la culture NBA aussi, hein, où on joue beaucoup sur le 1 contre 1. Moi je l'analyse comme ça aussi.
C'est-à-dire qu'on Parker a l'habitude de jouer dans un système aux États-Unis. Non, aux États-Unis, il a l'habitude de jouer avec deux joueurs majeurs autour de lui, que sont Duncan et Ginobili. Pour l'instant, on n'a pas ces joueurs-là. Enfin, on a Batum qui est en train d'évoluer, mais faut rappeler aussi le jeu de Ginobili qui arrive comme un joker. C'est-à-dire que, en gros, on lui donne la balle, il se démerde. Et Batum peut pas jouer dans ce registre. Batum, il a besoin d'avoir des choses préparées. Et on n'a pas, pour l'instant encore, le point d'accroche au centre. Dans la raquette.
Noah a pas
encore la technique. Je crois qu'il l'aura jamais.
Il s'est fait bouger.
24, mais voilà, il a apporté une rage. Je veux dire,
Une combat, énergie positive.
Ce que disait dans un coup de tête, il a apporté des.
Dans la raquette.
Voilà.
C'est une certitude. Alors, justement, on a une question des auditeurs via le chat. Les JO, c'est dans un an. Auront-ils le temps, les Français, de prendre davantage de repères et d'habitudes pour préparer un jeu?
S'il n'y a pas de saison NBA, oui.
Parce que là, voilà, c'est quand même la chose qu'il faut souligner, c'est que pour une fois, on avait tous les joueurs français disponibles parce qu'il y a le lockout en NBA. Est-ce que.
Non, mais déjà, il y a un point à souligner, c'est que les Français en NBA se sont fait sortir très tôt des playoffs. Parker est sorti au premier tour, Portland au deuxième, je crois, ou premier ou deuxième, non, premier, parce qu'ils ont sorti par le Thunder. Donc il y a eu un temps. Parker a eu vraiment des vacances. C'est tout bête. Hein. C'est un gamin. Enfin maintenant c'est plus un gamin, il a 29 ans.
À son âge.
Qui a jamais eu de vacances en 10 ans. Parce qu'à chaque fois il portait le maillot d'équipe de France sauf une fois. Il y a eu du temps. Etc. Si l'année prochaine il y a une saison hyper compacte NBA que ça va loin, comment préparer les JO 2012? Je sais pas trop. Tout du moins il y a un travail préparatoire qui a été fait méthodiquement. Je pense qu'il y a encore du travail à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à revoir sur le travail offensif. Défensivement, on n'est pas si mal.
Ouais, sur la question à proprement dit, moi j'ai envie de dire non. On n'aura pas le temps de préparer. Et puis tant qu'on aura Tony Parker, de toute manière, on n'aura pas un jeu collectif au sein de cette équipe de France. Par contre, je rebondirais sur la remarque qu'a faite très justement Gonzalo, qui disait que si on récupère Rodrigue Beaubois, ce malheureux blessé, le pauvre, peine pour lui, parce que c'est un formidable joueur. C'est un formidable joueur qui peut vraiment apporter un plus à cette équipe de France. Turiaf est très important, bien sûr, dans le rôle ingrat, mais Rodrigue Beaubois peut vraiment offrir un plus à cette équipe de France.
Si Séraphin continue de progresser comme il le
aussi.
Fait, si Joachim Noah peut revenir, c'est pas évident non plus.
Oui.
Hein, il y a toujours les franchises NBA. On parle de Beaubois. Est-ce que Mark Cuban, le proprio de Dallas, va pouvoir le laisser partir?
Technique.
Voilà, il y a plein de choses. Après, ce sont les JO. Les JO ont une exposition vraiment particulière. Et ce que accordent les proprios aux joueurs américains, ils auront du mal
à le lâcher.
Il est 24, monseigneur.
Oui,
il reste 6 minutes.
C'est bon, nous sommes dans les temps.
Voilà, non mais. Alors, on rappelle les JO de Paris, en fait.
À 2h15 de Paris.
Non, ça va être chouette. On attend de revoir les Argentins, on en parlait tout à l'heure. Les Australiens ont l'air de grandement monter dans leur niveau de jeu. Et puis, moi, je voudrais juste terminer sur ces championnats d'Europe. Une remarque. Comptons. Serbie. Croatie. Slovénie. Macédoine. et il y en avait un cinquième qui a fait le Slovénie. Il y avait cinq nations de la Yougoslavie, qui l'ex-Yougoslavie, qui ont participé. De l'autre côté, il y avait
pour la Russie,
voilà. Russie, Estonie, Lituanie, Géorgie. Quatre équipes de l'ancienne fédération URSS. C'était quand même injouable avant.
Ah bah oui.
C'était quand même injouable. Quand on voit que la Macédoine, avec un tout petit réservoir, arrive en demi-finale, pas ridicule contre l'Espagne, moins, enfin, 88-80 contre l'Espagne, et perd de 4 points contre les Russes en finale pour
la troisième place.
Pour la médaille en chocolat. Mais quand même, voilà quoi. Autrefois, c'était quand même injouable. C'est-à-dire que tu prenais deux joueurs de Slovénie, trois de Serbie, machin, etc. Ça faisait des équipes énormes. Avant, tu prenais Sabonis de Lituanie, etc. Tu mettais un Kazakh, un machin truc, et ça te faisait des équipes énormes. Donc l'éclatement nous sert quand même.
Oui,
nous
oui.
sert.
Ah bah,
parce que dans l'état, si tu réunis, si on réunissait toutes ces nations-là, même là, avec la grosse équipe de France, c'était pas évident qu'on puisse accéder à ce parcours. Mais bon, c'est le sens de l'histoire.
C'est pas plus mal pour ces peuples. Après, c'est dommage pour le niveau, la voilà, compétition.
Peut-être qu'un jour, on verra la Californie affronter en demi-finale du championnat du monde le Michigan.
Pourquoi pas? Les États des
Unis. Le Texas.
Ben, on va parler un peu actualité locale et puis ce qui va se passer dans les jours qui suivent sur les, dans les boîtes sportives, dans, sur les verts prêts, sur, dans les salles.
Il n'y a qu'une seule adresse ce week-end. Le Pré Margaux.
Il y a que le Pré Margaux ce week-end.
Ah non, il y a match amical de l'ALM samedi soir contre Lille ou Portel comme d'habitude. Je crois.
Ouais, dans le cadre de la journée de la fête du basket, c'est Lille. Voilà. Non, c'est d'abord Portel et après Lille, donc c'est le Portel.
Voilà, et puis du rugby donc dimanche pour la réouverture du championnat de Fédéral 3.
Un derby, ce qui sera pas souvent le cas finalement.
Il y en a que deux. Voilà. Et oui, parce que il y a plus que trois clubs normands en Fédéral 3. L'Aigle et Caen, tous les autres sont rétrogradés en régional. Donc voilà, après il y aura des clubs franciliens beaucoup, puis la machine.
Mais peut-être que la matinée va supporter le stade rouennais, puisque vous désormais vous travaillez avec
je ne représente que 50% de la matinale.
Et donc et c'est la mauvaise et c'est les mauvais 50%.
Non, parce que on rappelle le club le plus haut de l'ouest de la France, enfin de Normandie.
De la Normandie, c'est le Stade Rouennais.
Voilà. Il y a Vannes qui est au-dessus.
Ah hein. Oui, Vannes Fédéral 1. Il y a Rennes en Fédéral 2. Et puis voilà, un peu pour la petite histoire.
Basket N3, les deux équipes jouent à l'extérieur.
Et le volley.
Le volley, je crois qu'il y a grosse semaine
de travail
à venir. Ouais. Oui,
ouais, beaucoup de travail apparemment.
Le coach a décidé d'un peu accélérer. Et il m'avait décrit que en 12 jours, elle n'aurait qu'un jour de repos dimanche, même pas samedi et dimanche au taf.
Et si dans les nouvelles, il y a l'Euro volley ou quelque chose comme ça, je crois bientôt. Il y a la liste des sélectionnés qui vient de sortir et
il y a Terré.
Et Terré est dans les 12 qui ont été retenus par Monsieur Vial.
Il a fait des choix assez surprenants, qui a coupé l'une de ses meilleures attaquantes, apparemment qui foutait un peu le bordel, mais c'est quand même toujours un peu délicat de se couper de l'une d'attaquantes un peu forte, hein, une joueuse qui Camara qui joue je crois en Turquie. Il n'y en a pas tellement que ça en France, des joueuses volées qui jouent à l'extérieur, enfin hors des frontières. Mais bon, c'est son choix. Hein.
Et ben
on va voir ce que ça donne.
Et puis rendez-vous équipe de France hein, contre les Blacks.
Voilà,
samedi
10h30 rugby à la télé.
Et après on écoute le Privé Babylone et on est bien.
Voilà, on va clore ce café des sports.
Spécial guitare en bois.
Oula. Non, on va clore ce café des sports. Je disais. Qui a été plutôt allégé aujourd'hui. On était dans le déca. On se retrouvera la semaine prochaine en espérant
que... Je t'ai taclé, t'as pas voulu répondre.
Bon, tu m'as taclé de quoi?
Sur le rugby, là.
De quoi?
Rougerie qui sait pas défendre, des choix à la noix...
Mais Rougerie, il sait défendre comme un ailier. Voilà, sauf qu'il joue au centre. Voilà.
Donc ça veut dire qu'il reste un côté d'ouvert.
Voilà.
Avant, t'as la ligne de touche qui se ferme.
Là, voilà. Il va falloir que son deuxième centre soit très. Non, son ailier soit proche de lui pour l'aider.
Ouais. Je peux juste une petite remarque.
Oui.
Il y avait une remarque intéressante de monsieur Elissalde sur le canal.
Fils ou père?
Père qui expliquait qu'il y avait beaucoup de monde autour de Lièvremont, mais peu auprès. C'est-à-dire qu'il est un peu lâché dans la nature par la Fédé. Déjà, il y a le groupe qui est un peu solidaire et l'entraîneur est en train de, le sélectionneur est en train de se buter avec la presse. Je crois qu'il dépense un peu trop d'énergie contre la presse. Voilà. Et c'est ce que signalait monsieur Lissalde de Père.
Et c'est déjà pas mal que le groupe soit solidaire sans l'entraîneur, ça change.
Coupe du Monde, Elissalde, Toulouse, Toulouse privée quasiment.
Non, là, on parle du papa.
D'accord.
Voilà.
Moi, je voulais juste dire ça, qu'il y a quasiment tout son effectif, en tout cas les joueurs majeurs en Coupe du Monde, et qui arrive à coller un 23-0, c'est quand même honnête.
Ouais, ou moi, je prends tous les jours l'équipe B du Stade Toulousain à l'entraînement, il n'y a pas de souci, avec McAllister qui a fait 50 matchs avec les Blacks pour remplacer Skrela qui est parti. Ça va, hein, t'es pas perdant. Hein.
Et Marche demandait, mais pourquoi, au fait, Josion n'est pas sélectionné?
Voilà. Il y a d'autres incertitudes. On suivra aussi, allez, pour clore, ce qu'a fait les sports, la folle histoire, Laporte, Boudjelal. Le nouveau roman des éditions du Soleil. Non, on suivra.
Édition Delcourt. Ouais.
Allez, on ferme ce qu'a fait les sports, on se retrouvera la semaine prochaine. Merci. Et n'hésitez pas à laisser vos messages sur le répondeur ou sur le chat pour nos spécialistes dans 10 jours en nocturne. Au revoir Gonzalo.
Ça va.
Au revoir Damienski.
Merci Tolly, bonsoir Gonzalo.
À bientôt petit Edgar.
Ah, on t'attend mon ami.
Allez, on t'attend vivement. Et notamment ton papa et ta maman pour boire un coup. Allez, ciao.
Essai de Cristian Dominici, c'est un génie.
Essai. Pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but.
Et troisième but
d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Oh là là, chute de Mélanqui, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain.
Ça y est, Shepard qui est parti. L'Express, le TGV est parti, Shepard. 9,58, record du monde.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.